Radio Cité Genève.
Cité rencontre. Gilles Soulac.
On est déjà dans l'atmosphère d'un pays lointain qui nous fait rêver, c'est l'Australie. Et avec nous pour nous en parler aujourd'hui et pour Connaissance du Monde, un film qui sera présenté à Genève à partir de 15h30 et 18h45. Jean Charbonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de passage après la Chine, on part pour l'Australie. Pourquoi l'Australie ?
Par une certaine logique familiale, j'ai passé 20 ans en Chine, j'ai rencontré une Chinoise qui m'a bien plu. Et lorsqu'elle
oui, imagine.
J'avais le choix, il y en avait 600 millions. Et lorsqu'elle m'a rejoint en France, c'était en 1990, juste après Tiananmen, eh bien sa sœur a émigré en Australie.
Et donc vous êtes dit, allez, on va aller faire un petit tour dans ce coin-là. Au départ, quand même très différent, évidemment, entre cette Asie et cette Chine, et puis même cette Asie du Sud-Est aussi, autant couleurs, avec beaucoup de population. Là, l'Australie, d'un coup, voilà, c'est gigantesque, avec une population en plus occidentale. Moins intéressant, quoi, au premier
oui,
abord.
Oui, au premier abord, c'est, on arrive dans la banlieue, on se retrouve avec des gens en train de faire les supermarchés avec leur jogging. Donc là, on se demande pourquoi on est arrivé là, à l'autre bout du monde, pour se taper 24 heures d'avion. Quoi.
En même temps, un pays très ancien, avec une population indigène, hein, ces autochtones, ces aborigènes qui font couler beaucoup d'encre, toujours, hein, et effectivement, aussi pour des choses négatives. Et puis, de l'autre côté, eh bien, là, on ne sait pas, ce sont des Hollandais hein, au XVIIe siècle qui sont
non,
arrivés là.
Non, pas du tout. C'est des, les Hollandais ont été les premiers, hein, mais en fait, ils ont été les premiers à reconnaître le continent australien. C'était en 1606 et 1616. Donc ça, ça a été les premiers à reconnaître, mais personne ne s'est posé. Simplement,
c'était pas intéressant.
Pas du tout. Ils ont trouvé que c'était trop sec, stérile, et les aborigènes inhospitaliers.
Voilà, mais en tout cas, une population qui a intégré cette île, cette grande île, continent d'ailleurs, effectivement, et qui ont rompu avec cette culture aborigène. Hein. Il y a quand même un décalage. On le voit que très peu dans le film, mais en général, quand même, on sait qu'il y a ce problème qui existe.
Énorme décalage. Un décalage non seulement par la peau, un décalage par la culture et un décalage par l'histoire. Parce que ces aborigènes, il y a quelques décennies à peine, pour certains d'entre eux, vivaient à l'âge de la pierre. Et là, ils se retrouvent propulsés dans un monde d'ordinateurs, de téléphones portables, de mensonges, sexe et vidéos, pour reprendre certains films.
Alors vous aimez sortir des sentiers battus. Hein, c'est un petit peu tout ce film hein, qui a été fait, je crois, sur 2 ans. Donc c'est quand même très important, ça veut dire que vous avez le temps d'être sur place, de prendre le temps d'entrer dans vos sujets.
Ça c'est la volonté de la majorité des conférenciers de Connaissance du Monde et c'est ce qui fait notre spécificité par rapport notamment aux productions télévisuelles. Nous sommes avant tout des voyageurs, des aventuriers. Et moi, quand je vais en Australie, c'est avant tout pour découvrir le pays, pour voir ce que j'ai envie de voir et garder la truffe en l'air pour essayer de repérer ce qui pourrait bien m'arriver de rencontres inopportunes. Et c'est ça qui me plaît, quoi.
Il y en a des rencontres effectivement intéressantes dans votre film. J'ai l'impression qu'en fait c'est de grands tableaux, hein, ce tableau avec les humains, les populations, les relations qui peuvent exister, et puis le côté aussi de la nature en elle-même. Parce que la nature, ça vous plaît, c'est une évidence.
C'est absolument une évidence. Bon, je suis né en France, en fin fond d'un petit village de 500 habitants en Vendée. Et c'est vrai que j'ai eu un contact très tôt avec la nature et ça ne m'a jamais lâché. Je suis toujours impressionné par le déterminisme des animaux, leur façon de fonctionner. Et lorsque je suis arrivé en Australie, d'abord j'ai trouvé c'est cette nature infinie qui m'a profondément marqué. Lorsque vous voyez prochain téléphone 400 km, au départ vous avez peur. Et puis ensuite, vous vous dites, ben finalement, c'est bien. Parce que si j'étais passé là il y a 40 000 ans, finalement, cette nature aurait été strictement la même. Et quand vous vous retrouvez dans des forêts, notamment dans les forêts humides du nord de l'Australie, vous vous apercevez que vous êtes un passager dans une nature vraiment inviolée, pure, brute. Et c'est vraiment exceptionnel.
Vous dites d'ailleurs, nous ne sommes effectivement que des passagers en général. Personne n'a osé habiter dans certaines régions. Donc un pays immense et une petite population et en plus extrêmement concentrée. Cela laisse de la place pour l'aventure et pour la vie sauvage.
Oui, l'Australie, c'est l'équivalent de 186 fois la superficie de la Suisse. Et la population n'est que de 23 millions et tout le monde habite sur la côte. Principalement la côte est et sud, un petit peu à l'ouest. Donc tout le reste, c'est vraiment des espaces immenses où il y a pas même qui vivent quoi.
Alors vous parlez beaucoup de choses, mais enfin c'est un petit peu l'origine de connaissance du monde, de permettre de découvrir dans un même sujet, dans une même thématique, beaucoup d'aspects d'un pays. Mais revenons aux animaux, parce que il y a des documents à un moment donné qui sont des documents animaliers, hein, au niveau cinématographique de toute évidence. Il faut passer beaucoup de temps pour prendre des images. Je pense par exemple au monotrène. Vous allez nous dire ce que c'est, hein, les monotrènes. Et puis aussi les marsupiaux, bien sûr. Alors les koalas, les kangourous. Vous prenez du temps en plus pour aller visiter un espace dans lequel une femme recueille les kangourous. Parce qu'à chaque fois, on se rend compte que la nature, en fait, elle est confrontée à la civilisation.
Oui, absolument. Alors les monotrèmes, c'est vraiment une grande énigme pour les scientifiques. Ce sont des animaux qui sont ovipares et mammifères, c'est-à-dire ils pondent des œufs et ensuite ils ont des mamelles dans une poche où le petit va s'allaiter. Alors c'est vraiment une énigme de la nature et il y en a deux seuls au monde, que sont l'échidné et l'ornithorynque. L'ornithorynque est un petit peu plus connu, mais l'échidné, ça ressemble à une sorte de hérisson. Et lui, c'est pas facile de le voir
entre
parce
le hérisson et le porc-épic.
Ouais, c'est ça.
Dans la taille.
C'est
ouais.
Ça. Oui, oui. Et alors bon, évidemment, la poche, c'est jamais très évident de la voir, mais c'est un animal qui a un nez très très pointu, qui mange des fourmis, des termites, et souvent on le voit le matin tôt ou le soir. Et le problème, c'est que pour le filmer, si on s'approche de lui, s'il sent votre présence, il s'arrête et puis il s'enterre. Donc là, c'est foutu, quoi.
Il y en a, vous savez, quand vous avez un micro aussi, ils se cachent et puis ils s'en vont. Donc ça s'en prend un peu.
Donc il faut être extrêmement patient, attentif et puis prudent, extrêmement prudent pour réussir à le filmer. Alors bon, j'en ai rencontré plusieurs, mais il y a eu pas mal de coups ratés, hein. Et puis un jour, quand même, j'ai eu de la chance. C'était pas loin d'une zone habitée. Peut-être qu'il était un peu moins farouche, qu'il avait déjà vu plusieurs humains, et donc là, ça allait, quoi. J'ai pu le filmer correctement.
Alors vous savez, c'est comme dans tous ces films animaliers, on a l'impression que la nature, elle est à portée de main, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on va sur place. Est-ce qu'en Australie, c'est le cas? Est-ce qu'on rencontre ces animaux, ces kangourous au coin de rue, ces koalas, enfin tous ces animaux, ces serpents aussi? Est-ce qu'il y a justement cette proximité des animaux?
Alors ça, c'est ce qui m'a choqué, dans le bon sens, hein, en Australie. C'est cette proximité exacte avec les animaux. Alors, il faut faire bien attention parce que, par exemple, les kangourous, lorsqu'on est en plein bush, les kangourous ont très peur des humains, tout simplement parce que l'Australie enrôle des tueurs pour tuer en gros 4 millions de kangourous par an. Donc ces kangourous-là ont déjà ça dans la tête, ils savent très bien que l'humain n'est pas très fréquentable. Donc
qu'est-ce qu'ils font de ces kangourous?
Ils font de la viande pour animaux, ils vendent les peaux pour les touristes, enfin, etc. Beaucoup de viande pour animaux. Et pour les Européens qui veulent manger du kangourou à Noël.
Voilà, la peur déjà de ces animaux, donc bah, en général, hein, de toute façon. Comment vous faites pour dépasser cette peur et pour arriver à justement prendre ces images?
Alors là, il faut être patient. Il faut être extrêmement patient et avoir un peu de chance aussi, parce que le kangourou a le sens olfactif très développé, donc il faut être un petit peu dans l'autre sens du vent, quoi. Et puis sinon, eh bien, on a des grands parcs nationaux en Australie. On en a 500 où la chasse est interdite aux kangourous. Donc ceux-là, ils sont un peu plus abordables, entre guillemets. Quelquefois, presque trop. Mais bon, de ce côté-là, ça va, quoi. Par contre, ce que j'ai appris en Australie, et ça a été une vraie redécouverte, ce sont les reptiles. Ça, c'est assez étonnant. Vous avez des animaux qui ressemblent à des iguanes, qu'on appelle des goannas, là-bas, ou lace monitor. Ce sont des... Bon, ils font un mètre à peu près de long. Ils sont hauts sur pattes, comme des petits dragons. Et vous pique-niquez en pleine nature et ils s'approchent quelquefois de vous. Ça fait assez peur au début parce qu'ils viennent là et ils attendent qu'on leur donne à manger, quoi. C'est assez étonnant. Alors bon, on leur donne ou on leur donne pas, ça c'est le choix de chacun, parce que c'est pas forcément un bon geste que de donner pour attirer ensuite les reptiles comme ça. Mais c'est vraiment exceptionnel, quoi.
C'est quoi le meilleur souvenir, Jean Charbonneau, que vous avez d'une image que vous souhaitiez avoir et que vous avez réussi à obtenir avec peut-être plusieurs péripéties et plusieurs petites anecdotes?
Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément.
Un particulier.
Hein. Bon, un particulier, c'est assez dur. J'ai été assez impressionné par les fourmis vertes, par exemple. Ce sont des fourmis. Alors, ça a été assez dur à filmer parce que si vous vous approchez trop près, elles vous sautent dessus, puis elles vous piquent et elles piquent très très fort. Et elles font des nids en collant des feuilles entre elles. En fait, elles utilisent le fil des larves pour coudre des feuilles entre elles. Et c'est assez impressionnant de les voir travailler et elles ont
c'est dans les arbres, ça. Hein.
C'est dans les arbres. Et alors, il faut faire très attention parce qu'avec la caméra, vous vous approchez à quelques centimètres, mais il y a du vent toujours un peu. Et donc, si le vent vous approche un peu trop, déjà, vous êtes flou, mais surtout, elle passe le pont, elle saute sur la caméra et vient vous bouffer les doigts, quoi. Donc, c'est assez étonnant. Mais ça, c'est une rencontre assez impressionnante. Bon, on parlait des monotrèmes tout à l'heure. L'ornithorynque, c'est une rencontre exceptionnelle parce que c'est vraiment vous plongez presque dans la préhistoire, voilà. Hein. Et donc l'ornithorynque, c'est il faut être très très calme le soir et bon, et on le voit apparaître, il plonge, il ressort quoi.
Alors à un moment donné, il y a une image d'un crocodile. Alors j'ai eu du mal moi à savoir si c'était un vrai ou un plâtre. Je ne sais pas, vous dites qu'il fait 8 mètres de long, c'est le plus gros crocodile d'Australie et que c'est une femme qui l'a tué. Ça, c'est une réalité parce qu'on voit un homme d'ailleurs qui rentre dans sa gueule. C'est juste incroyable cette histoire. Alors c'est quoi? C'est un mythe? C'est...
Alors l'homme, c'est moi dans la gueule.
C'est vous, et je ne vous ai pas reconnu, Jean Charbonneau. Vous faisiez le clown à cette époque.
Voilà, eh bien ça s'est passé, c'est une histoire absolument vraie. C'est en 1957, c'est une jeune femme, c'est à Normanton, au nord du Queensland, près du golfe de Carpentarie. À cette époque-là, la chasse aux crocodiles était ouverte, alors qu'actuellement elle est fermée. Et donc cette femme a eu un coup de chance, hein, c'est une femme qui a tué ce crocodile.
Un coup de chance, 8 mètres de long, je sais pas.
Ah oui, non mais elle a dû vider son chargeur, je pense, hein, et 8,63 mètres.
Ah, c'est incroyable.
Et c'est le record. Alors en hommage à ce record-là, ils ont construit un fac-similé de exactement la même taille.
C'est immense, ça fait peur.
Ah, c'est immense, et c'est pour
dinosaure.
Ça que je me suis mis dans sa gueule et je me suis fait prendre en photo par ma femme parce que on se rend compte que je tiens entièrement dans la gueule du crocodile. Quoi.
Merci Jean Charbonneau de partager donc ces expériences. On vous retrouve demain. On a décidé de faire une grande rencontre avec vous. Hein. Vous serez à Genève, donc je le rappelle, cet après-midi à 15h30 et 18h45. C'est à la salle centrale Madeleine, et vous serez tout au long de la semaine. Franchement, c'est un film à découvrir sur l'Australie. Vous disiez, nous sommes tous des aventuriers, plus ou moins, dans ces phénomènes-là de diffusion de films. On vous retrouve demain, donc, et puis on viendra aussi où l'aspect religieux, cosmogonie, donc les explications de l'origine des mondes, avec un impact, bien sûr, dans la vie, et particulièrement celle des aborigènes.
Radio Cité Genève. Cité Rencontre. Gilles Soulac.
Est-ce que l'Australie vous fait rêver? Eh bien, lui, oui, ça le fait rêver. En plus, il en a fait un film. C'est Jean Charbonneau. Bonjour.
Bonjour.
Bon, Jean, vous êtes parti en Australie. Vous êtes même resté sur 2 ans sur la piste du rêve, sur les pistes du rêve. Alors, c'est vrai que des pistes, vous en avez mangé quand même, hein. Vous travaillez pour Connaissance du Monde. Alors, ces pistes-là, c'est insupportable.
Non, c'est là que on entre dans la vraie Australie profonde. Il y a vraiment une barrière psychologique en Australie. Quand vous êtes sur le bitume, vous coltinez ce qu'on appelle les grey nomads. Les nomades gris, ce sont tous ces jeunes retraités qui s'achètent un beau 4x4 flambant neuf, qui le matin le briquent au petit chiffon et traînent la grande caravane derrière, quelquefois même le bateau sur le 4x4. Et ceux-là, on ne les voit que sur le bitume, parce que sinon ils vont salir le 4x4. Et dès que vous passez sur les pistes, là c'est complètement autre chose, c'est 4x4 uniquement, quelquefois avec des remorques basses si petites. Petite possible, parce que ça va être compliqué dans certains passages.
Ça peut même être risqué, hein, Jean Charbonneau, parce
absolument.
Que là, il y a personne sur 400-500 kilomètres, faut pas
oui,
se tromper.
Oui, et plus, hein, parce que il y a des pistes qui font 900, comme la Savannah Way, on part sur une piste, à l'autre bout, il y a un seul village dans le milieu, on en a pour 1100 kilomètres. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut un minimum de préparation, mécanique, d'information et de préparation psychologique, parce que il y a pas maman pour venir vous secourir.
On va trash quand même Georges Charbonneau. La poussière, quand même, c'est des pistes où il y a de la poussière, la nature. Alors on a l'impression que l'Australie, vue de loin comme ça, moi personnellement j'y suis jamais allé, c'est un grand désert, il y a rien à voir. Mais c'est pas du tout ce que vous proposez dans votre film. En fait, on se rend compte que c'est juste magnifique, mais qu'il faut faire des kilomètres, vous en avez fait 8000 quand même.
Oui, alors la poussière, c'est la poussière rouge. Et j'aime beaucoup cette poussière rouge. Vous savez pourquoi ? Parce que progressivement, elle teinte vos vêtements, elle teinte votre véhicule. Et quand vous revenez à la civilisation après, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui viennent me voir, qui me disent « Où c'est que t'as attrapé ta poussière, toi ?» Donc c'est le marqueur de l'aventure, de l'aventurier.
Alors bien sûr, j'ai caricaturé hein, bien sûr la barrière de corail juste extraordinaire. Bon, vous en parlez dans votre film, mais ce qui ressort, ce sont les rencontres, ce sont aussi les découvertes d'animaux et cette vie sauvage importante. Mais en début de film, vous présentez l'origine de cette civilisation d'Australie, dirons-nous, surtout les aborigènes hein, qui sont là depuis bien longtemps. Et c'est important, cet aspect religieux, ça pose un décor, Jean Charbonneau.
C'est l'âme de l'Australie. En fait, pour bien comprendre ce pays, je pense qu'il faut en revenir aux sources. Et aux sources des habitants qui sont là depuis autour de 50 000, peut-être bien 60 000 ans. Et une grande part de mon travail en allant dans cette profondeur de l'Australie, ça a été de m'inspirer, voire de rencontrer ces aborigènes pour savoir quelle est leur façon d'appréhender le monde, pour savoir aussi ce qui les habite et quelle est leur vision du monde en clair. Et je pense que dans le voyage, où que vous alliez, loin ou proche de chez vous, c'est ça le plus important. C'est la base, c'est l'essence du voyage. Et avec ces aborigènes, ils ont une vision particulière du monde qui a engendré chez eux un attachement très particulier à la nature, à leur terre et aux valeurs de la nature. Et ça, aujourd'hui, en plein 21e siècle, on commence à le retrouver, ça.
Alors avec une histoire des origines, hein, une cosmogonie assez étonnante qui peut faire penser quand même à des notions de serpent et puis d'un dieu venant du ciel. Enfin, c'est intéressant. Puis une femme au milieu. Alors c'est quand même, ça nous fait penser quand même à un certain Adam et Ève. Il y a quelque chose quand même de bizarre avec un serpent qui arrive là. Allez, donnez-nous un petit peu les clés de l'idée des origines pour les aborigènes de leur terre.
Alors tout d'abord, il y a 250 groupes ethniques aborigènes, donc ils ont tous des histoires un petit peu différentes, mais on retrouve des troncs communs. Et il y a un être supranaturel dans tout le nord tropical où on a une saison des pluies 6 mois par an, qui est le serpent arc-en-ciel. Alors la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, serpent arc-en-ciel, où ont-ils pris une telle idée ? Parce que dans la nature, personne n'en a vu, c'est vraiment une élucubration incompréhensible. Et finalement, j'ai fini par comprendre, en fait, j'ai compris après avoir lu des livres de contes et légendes aborigènes, où je me suis aperçu que ce serpent arc-en-ciel était vraiment partout. Bon, si vous montez en haut d'une montagne et que vous voyez une plaine à vos pieds et que vous voyez des serpents dans la plaine, c'est des rivières ou des fleuves. Et donc le serpent arc-en-ciel, à partir de là, on s'aperçoit que finalement c'est l'eau. Et c'est ce que vous disent les aborigènes, mais ils ne vous expliquent pas pourquoi. Parce que ça, ils n'ont pas l'explication, ils ont simplement le nom et les origines. Et donc le serpent arc-en-ciel, c'est celui qui habite la mer, qui possède tout l'élément liquide du monde et qui a généré les fleuves, les lacs et les rivières. Et donc qui a creusé les paysages, car avant son arrivée, la terre était plate, uniforme, insipide, inanimée. Et donc le serpent arc-en-ciel a amené l'eau, donc il a façonné les paysages,
ouais.
Et il a amené la vie végétale et la vie animale dont nous faisons partie. Donc ça, c'est une loi de la nature simple, hein, mais ça s'appelle serpent arc-en-ciel, et c'est logique en somme. Alors arc-en-ciel, c'est la logique est tout autant implacable, parce que quelquefois, notamment en saison des pluies, on a le ciel qui devient tout noir, et on a un bel arc-en-ciel qui apparaît. Alors les aborigènes perçoivent ça d'une autre façon, parce que quand le serpent arc-en-ciel apparaît, sa peau, son arc-en-ciel, eh bien, ça veut dire que c'est une menace de pluie, mais surtout une menace d'inondation qui envahit 6 mois par an quasiment tout le nord de l'Australie. Donc, inondation, ça veut dire noyade éventuellement. Donc, si vous voulez, c'est une menace très simple, très particulière, et évidemment, de tout temps, les hommes ont divinisé les forces de la nature et ont compris que
le serpent était en colère.
Le serpent était en colère et donc par conséquent peut-être qu'ils auraient mal vécu, mal suivi les lois de la nature, et c'est comme ça qu'ils ont instauré des règles qui les poussent à respecter la nature, et c'est formidable.
Alors on a juste commencé, nos auditeurs ont compris qu'il faut venir voir le film parce que ça dure 2h10. Effectivement, au milieu il y a une femme quand même. Dans cette histoire, il y a toujours une femme quelque part, et dans les cosmogonies en général, là il y a une femme alors qui enfante dans l'eau, puisque vous présentez cela comme étant la rivière avec le serpent, et qui enfante aussi dans le ciel ou sur la terre. Donc
c'est ça, c'est le mélange de l'air et l'eau, du ciel et de la mer.
Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a des peintures rupestres, et vous les présentez, hein, vous avez des images intéressantes sur ces peintures, hein, évidemment, qui ne sont pas toujours faciles à décrypter, il faut aussi prendre le temps, avoir ce temps, et pouvoir aller à la rencontre aussi de ces aborigènes pour qu'ils puissent vous les partager. Ce fut le cas pour vous dans ce film.
Dans un film, il y a quelquefois des coups de chance. Et ce monsieur, ce vieil aborigène de 80 ans, on avait vu une petite photo de lui de 6 cm de haut dans un livre. Et ma femme était devenue complètement obsédée. Elle voulait absolument voir la fresque qui était derrière lui.
Et là, quand
lui.
C'est comme ça, vous savez ce que c'est, faut y aller.
Et donc, on a mis plusieurs années à chercher. On nous a conduit dans des endroits et c'était pas là du tout. On a cherché partout. Et un jour, on était à Catherine, en territoire du Nord. On sort du terrain de camping. Et il y a ma femme qui dit, Jean, arrête-toi. Il y a Bill qui vient de passer. Et je regarde ma femme, je dis, c'est pas possible cette histoire-là. Tu reconnais un mec que tu as vu de 6 cm dans une petite photo.
Votre femme, il faut le signaler, est quand même asiatique. Donc là, le détail, c'est juste important, ça change tout. Hein.
Elle est très très physionomiste.
Observatrice. Ouais.
Elle m'a dit, je te jure, c'est Bill. Alors je cours dans le dos du vieux monsieur que je vois et je lui frappe sur l'épaule, je lui dis, are you Bill Arney? Il me dit, yes.
Non. C'est incroyable cette histoire.
Extraordinaire, extraordinaire. Et alors, là, ça a été le début d'une longue histoire parce qu'on l'a rencontré pendant plusieurs années. Il nous a emmenés dans son village, il nous a emmenés voir des fresques complètement inconnues. Et il y a des fresques qui sont très connues en Australie, qui sont celles du parc national de Kakadu. Et celles-là qu'on a vues appartiennent à son peuple. Ils sont seulement 500 individus, jamais publiés, jamais vus, sauf donc cette petite photo qu'on avait vue. Et c'est les plus belles fresques que nous avons jamais vues en Australie.
Donc un vrai travail d'ethnographe d'une certaine manière aussi. Il les chante aussi, ces fresques. À un moment donné, ce personnage vous raconte ses histoires. C'est pas seulement les raconter, il vous donne un petit peu l'idée que vous aviez prise d'ailleurs en début de film, hein, que la terre était plane, qu'il n'y avait rien, le serpent, etc. Il le reprend avec sa façon de l'exprimer, et puis il se met à chanter.
Alors c'est ça qui est extraordinaire chez les aborigènes, c'est que ces fresques, selon leur version, ce ne sont pas eux qui les ont écrites, ils les entretiennent. Elles auraient été écrites par la création, les esprits créateurs, comme le serpent arc-en-ciel entre autres, qui auraient écrit ces fresques sur la pierre, et ensuite qui auraient inventé des chansons qui aurait été offerte aux habitants sur place, et que ces habitants, donc de père en fils depuis les origines du monde, relatent comme ça jusqu'à aujourd'hui.
Alors ça, c'est comme quand on se trouve dans certaines ethnies minoritaires, hein. Vous connaissez bien la Chine ou à Kashgar, il y a une trentaine d'années, on a l'impression de faire un pas en arrière, de retrouver une civilisation originale. C'est un peu de l'émotion pour vous à ce moment-là?
Absolument, c'est une émotion parce que par la nature et par ce peuple aborigène, on a un lien direct aux origines du monde. Et c'est ça qui est vraiment stupéfiant en Australie, c'est qu'on a une société d'une part très moderne dans les villes, et en même temps on peut toucher du doigt la préhistoire comme peu d'endroits au monde aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une grande leçon de nature.
Australia sur les pistes du rêve, en présence du réalisateur Jean Charbonneau, parce que vous faites tout. Et d'ailleurs, je vais vous inviter demain. Allez, vous allez nous raconter comment vous faites vos films, parce que ça fait un moment que vous tournez avec cela. Donc, de Brisbane à Broome, on dit Broome?
Broome.
Voilà,
yes.
Broome. Du Queensland au Kimberley, en passant par, bien sûr, la barrière de corail. Voilà, un film intéressant qui sait aussi être dans cette actualité, des problèmes aussi environnementaux, bien sûr, et des problèmes de civilisation entre ces aborigènes et les populations occidentales. Alors, vous pouvez aller voir le programme sur le site de Connaissance du Monde. À ne pas manquer, donc, www.connaissancedumonde.com. À demain, Jean Charbonneau.
À demain.
Radio Cité Genève. Cité Rencontre. Gilles Soulac.
Il y en a qui ont de la chance, ils ont passé leur vie à voyager, à faire des films aussi, à être cinéaste. Non mais c'est pas possible, on peut pas comme ça passer sa vie à voyager, Jean Charbonneau.
Alors, j'ai des spectateurs qui me disent c'est un coup de chance, vous voyagez. Alors là, non. Vraiment non, c'est une vraie volonté. C'est prendre des risques au quotidien, en permanence. Et notamment les grands voyages, lorsque vous partez pour un an. Bon, moi, le plus que je sois parti de chez moi, c'était 11 mois à peu près. Quand vous fermez la porte, vous savez où vous allez, mais vous savez pas de quoi va être fait votre vie. Et donc, c'est mourir un peu, comme on reprend la bonne formule. Et donc, vous vous lancez comme ça, mais c'est tellement déconcertant au début, vous retrouvez SDF, en somme. Mais en même temps, vous allez bonifier toutes vos rencontres parce que c'est de l'or qui vous rentre dans le cerveau. Vous allez faire des rencontres, vous allez voir des choses extraordinaires, c'est inoubliable.
Alors on devient de toute évidence citoyen du monde. En même temps, c'est une organisation parce que vous vivez avec cela en faisant entre autres des ciné-conférences, hein, puisque vous êtes cinéaste. Et puis, bon, vous êtes assez perfectionniste ou en tout cas, vous aimez pouvoir présenter vraiment votre création dans sa totalité. Vous prenez les images, vous organisez votre voyage, parce que c'est déjà un job, hein, tout cela. Mmh. Ensuite, vous prenez les images, vous revenez, vous remontez, vous présentez et vous le dites en plus sur scène. C'est important pour vous d'avoir tout ce processus entre les mains.
C'est formidable. C'est la vraie vie de saltimbanque, d'être du début jusqu'à la fin, de maîtriser sa création. Et ça a un seul sens, c'est que vous êtes un homme libre, entièrement libre. Vous n'avez pas de sponsor, de producteur, tout ça qui vous pèse sur les épaules. Vous faites exactement ce que vous avez envie de faire. Et ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que vous faites exactement ce que vous avez envie de faire pour le meilleur du public.
Alors il y a un autre secret, la passion, vous nous en avez parlé, Jean Charbonneau, le désir, l'appel du voyage, comme disait Anne Monsen ou Shackleton, mais au-delà de cela, il y a aussi peut-être les contraintes. Quelles sont les contraintes quand on choisit une vie comme cela, de partir en voyage, de ramener des images?
Alors la première contrainte, c'est que les gens nous envient de voyager, mais ils ne se rendent pas bien compte que sur 12 mois de l'année, je suis en général 3 mois à la maison. Et donc quand je suis chez moi, il faut pas venir m'embêter. Ça me peine de faire 5 km pour aller à la ville d'à côté.
C'est ça, vous donnez tellement le reste du temps qu'en fait, vous bougez plus.
Exactement.
Vous regardez la télé, vous faites quoi quand vous faites un pas de voyage? Vous lisez, vous dormez.
Et je vais vous surprendre presque, j'aime pas vraiment revenir chez moi. J'aime bien pour la quiétude quelquefois, mais en réalité, elle est accompagnée d'inquiétude parce que j'ai des paquets de paperasses, de pubs.
C'est pourquoi ça nous fait rêver de voyager, Jean Charbonneau. Vous avez une formation aussi en psychologie. Vous avez étudié ce format, Jean Charbonneau. C'est quoi? C'est une vie de nomade? C'est la famille? C'est une rupture? C'est un choix de quitter ce monde ou de lâcher cette société tout en y restant un peu? C'est quoi?
Je crois que j'ai un sentiment très aigu du temps qui passe. Et c'est vraiment ça parce que j'ai la conscience que sur cette terre, les temps ne sont pas très longs et j'ai envie de profiter au maximum du temps qui m'est donné, de ne pas perdre de temps. Alors, quelquefois, ça m'a posé des soucis parce que à force de trop réfléchir, je passe des nuits quelquefois où ça bouillonne et ça, c'est pas bon parce que vous dormez pas bien. Mais en contrepartie, quand je regarde derrière moi depuis 40 ans de voyage, 30 ans conférencier, je me dis que je pense tout d'un coup à un de mes confrères à Connaissance du Monde qui s'appelait Maurice Kraft, qui disait
avec les volcans, n'est-ce pas,
exactement, qui disait avec tout ce que j'ai vécu, je peux mourir tranquille. Et maintenant, j'en arrive un peu à cette idée-là. Je pense que j'ai vécu pas mal de choses
comme
bien.
Vous n'êtes pas une femme, je vais me permettre, hein, Jean Charbonneau. Vous avez quel âge aujourd'hui?
58.
Voilà, j'allais dire, voilà. Donc 58. Est-ce que, et ça c'est une question que je me pose moi personnellement, et peut-être les auditeurs aussi se posent, on se dit qu'on a des étapes dans la vie comme cela. On dit, voilà, bah tu voyageais, t'étais jeune, moi ce fut mon cas, effectivement. Puis avec les années, on perd cela parce qu'on a envie d'une certaine sécurité, on a envie d'un certain confort. Est-ce que vous réussissez à garder et à attiser cette flamme, parce que je pense que c'est quand même un combat aussi avec les années où on a plutôt envie d'être un petit peu casanier à la maison, regarder la télé, Jean Charbonneau.
Vous avez entièrement raison. À force de voyager, il se crée un petit peu des troncs communs et on se dit bon, pourquoi ferais-je 500 km plus loin pour voir un caillou rouge avec une forme bizarre? J'en ai déjà vu pas mal de cailloux rouges. Et mes premiers pas en Australie, d'ailleurs, je voyais la collection Lonely Planet est d'essence australienne. Et leur guide est un énorme pavé. Et au début, j'étais un petit peu énervé parce que aller à tel endroit, c'est phénoménal, extraordinaire. Et j'arrivais là-bas et je me disais, ouais, c'est un caillou rouge. Et
ça,
alors...
c'est Lonely Planet, ça.
Oui.
On est d'accord.
Ouais. Mais il y avait une sorte d'emphase, et quand vous avez beaucoup voyagé, vous en avez déjà vu pas mal. Et donc, il se crée une sorte d'érosion de l'émotion. Mais je pense, et moi j'ai entendu quelquefois des vieux journalistes qui disaient ça, je pense que, quel que soit l'âge que vous avez, il faut être capable de s'étonner et lutter contre cet esprit blasé qu'ont notamment beaucoup de Parisiens en France.
C'est quoi le secret?
Le secret, c'est de...
Non mais vous avez bien fait, vous avez pas dit beaucoup de jeunes voix, c'est bien. Bravo.
Non, j'ai parlé des Parisiens.
Bravo. Mais alors qu'est-ce que c'est ce secret, Jean Charbonneau? C'est quoi? C'est se réveiller le matin en se disant, bah voilà, je reprends mon esprit de gamin, c'est quoi? C'est, je respire.
C'est être naturel. C'est être naturel. C'est savoir un petit peu oublier tout ce conditionnement qu'on vous met dans la tête, où vous devez avoir votre smartphone, regarder Facebook, toutes ces conneries.
Ouais, qu'on se met aussi, Jean Charbonneau. Je suis telle personne, j'ai telle voiture, qu'on se fabrique aussi. Hein.
Oui, oui, absolument. Mais il faut être bien conscient qu'on vit dans un conditionnement social qui vous pèse. Et vous, votre liberté doit être... au-delà de ce conditionnement social. Et c'est pour ça que le voyage, c'est très important. Parce que quand vous voyagez, vous tombez dans un autre conditionnement, dans d'autres pays. Et ça va vous permettre d'observer différemment votre propre culture, de vous en sortir. Et comme ça, vous serez plus libre. Donc, si vous voulez, homme libre, c'est pas simplement être libre d'aller dans un endroit, c'est d'avoir l'esprit libre pour s'étonner des moindres choses. Et chaque chose, une petite fourmi verte, elle va vous apprendre énormément de choses, c'est exceptionnel. Simplement, il faut s'agenouiller, attendre et l'observer de très près.
Tu veux être
c'est
en Australie
formidable.
Aussi, parce que des fourmis vertes à Genève, il n'y en a pas beaucoup non plus, Jean Charbonneau. Il faut combien de temps pour arriver à déconnecter? Parce que c'est le problème aussi de nos sociétés, vous le savez, nous avons peu de vacances. C'est une question de temps aussi d'arriver sur place, de pouvoir décompresser un petit peu, puis s'adapter. C'est comme quand on est en montagne, il faut 2-3 jours. Il faut combien de temps minimum pour un voyage? Prenons l'Australie, pour exemple.
Alors le temps minimum, en fait, est au prorata de la charge des choses que vous voulez voir. C'est-à-dire, si vous partez un an en Australie et que vous voulez voir 200 choses, vous n'allez pas prendre le temps. Et donc vous n'allez, à la limite, pas comprendre grand-chose.
Je parlais d'un mois, moi, Jean Charbonneau.
Et donc, si vous partez, par contre, en Australie 15 jours et que vous restez pendant 15 jours dans un lieu ou deux lieux, là, vous allez vous imprégner et vous prenez le temps d'observer la nature. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses que si vous partez très longtemps.
Rencontre aujourd'hui avec Jean Charbonneau, qui était notre invité d'ailleurs cette semaine. Vous êtes resté sur les ondes, donc vous présentez votre film pour Connaissance du Monde. Vous êtes là présent en tant que réalisateur, vous parlez dans le micro. C'est quoi le prochain voyage, Jean Charbonneau?
L'Australie, pourquoi?
Encore? Vous repartez encore pour l'Australie? Non.
Ça, c'est mon deuxième film sur l'Australie.
Ah,
et
vous arrêtez pas.
Il y a toute une région ouest que je n'ai pas montrée, la Tasmanie. Et j'ai vu encore plein de belles choses et j'aimerais bien en faire partager mes spectateurs. Donc, je pense que je vais faire un troisième film. Mais ouais. Je vais me donner le temps. Il me faut le temps. J'aime bien peaufiner, voyager. Donc, on va dire dans 5 ans ou 6 ans, quoi. Voilà.
Jean Charbonneau était notre invité pour cette rencontre donc autour de son film, autour de l'Australie, et en plus il y retourne.